Venez à Los Angeles. Le soleil brille toute l'année. Les plages sont vastes et accueillantes. Et partout, les orangeries s'étendent à perte de vue. Vous pourriez même être découvert, devenir une star de cinéma, ou au moins en voir une. Il fait bon vivre à Los Angeles. C'est vraiment le paradis sur Terre. Enfin, ça c'est ce qu'on vous raconte. Parce qu'ici, on vend du rêve.
Bienvenue à Los Angeles, la cité de l'avenir.
Bienvenue à Los Angeles, la cité des anges. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Amérique de James Ellroy. Vous entendiez à l'instant un extrait du film LA Confidentiel, sorti en 97 de Curtis Hanson, adaptation de l'un de ses romans. Une Amérique post-Pearl Harbor, dans ce nouvel opus intitulé « La tempête qui vient », qui paraît chez Rivage. Une Amérique post-Pearl Harbor telle qu'elle résonne dans ce roman. Deuxième volet donc d'un nouveau quatuor de Los Angeles, où les Américains d'origine japonaise sont les nouveaux boucs émissaires d'un monde en guerre et d'un monde en crise d'identité. L'après-Pearl Harbor, c'est cette période de l'histoire américaine qui va des années 40 au Watergate, pour vous James Ellroy, 1972, scandale et démission de Nixon. Pourquoi cette période-là vous passionne-t-elle particulièrement?
I lived through 24 years of it.
J'en ai vécu 24 années.
And I obsessively imagined
the et de façon obsessionnelle, j'ai imaginé les années précédant ma naissance.
I have vague recollections.
J'ai des souvenirs vagues.
Of the years I lived through,
des années que j'ai passées, que j'ai vécues,
history would occasionally,
l'histoire,
as unfurled,
occasionnellement, lorsqu'elle se déroulait, recouvrait mes obsessions personnelles.
And I trusted my instincts,
et j'ai fait confiance à mes instincts
that this should be,
que ça, ça devrait être
my chronological frame of reference.
Mon cadre de référence chronologique.
L'histoire, c'est la longue chaîne d'une mémoire que nous sommes nombreux à partager, écriviez-vous en introduction de Perfidia, le premier opus de cette nouvelle tétralogie, ce nouveau quatuor de Los Angeles. Cette histoire, donc, que vous mettez en partage, cette mémoire, la vôtre, celle d'une décennie, les années 40, où l'Amérique est en guerre. Racisme, antisémitisme, corruption, trafic en tout genre, violence. Est-ce que vous diriez, James Ellroy, que c'était pas mieux avant, que c'était quand même pire?
En fait, j'ai pas de réponse à cette question.
Because my relationship,
parce que ma relation au passé
is oddly utopian.
Est bizarrement utopique.
You can talk about the corruption.
On peut parler de corruption.
You can talk about
on peut parler
animus.
De racisme.
And of course I understand.
Et bien sûr, je comprends que c'était le cas.
But I don't care.
Mais je m'en fiche.
Because it's mine.
Parce que c'est à moi.
In all its glamour,
dans
its
tout son
lack of glamour,
glamour, son manque de glamour, sa, son côté moche.
It's the territory that I've staked out in my mind.
C'est le territoire que j'ai gravé dans mes mémoires et dans mon âme.
And I have to go back and back.
Et je dois y retourner et encore et encore et encore.
And create an ever new language for
un langage nouveau, à nouveau pour cette période.
Territoire au sens figuré, territoire littéraire, territoire imaginaire, mais aussi territoire urbain, puisque votre Los Angeles à vous, et vous l'avez dit, est celui des années 40, même si cette ville a depuis été traversée par les époques. Vous êtes un enfant de Los Angeles, il est un enfant du Bronx, l'écrivain Don DeLillo, sur la relation qu'il entretient avec son quartier.
J'ai grandi dans le Bronx et plus j'avance en âge, plus je me pense comme un gamin du Bronx. Les souvenirs de cette période, jours et années, est très fort. Je me souviens d'énormément de choses et j'ai utilisé quelques-unes de ces informations lorsque je travaillais sur mon livre Outre-Monde. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés au Bronx des années 50. Et beaucoup de tout cela, bien sûr, est tiré de mes souvenirs directement. Et de temps en temps, je retourne en fait dans là où j'habitais, je rencontre des amis, on dîne, on déjeune dans la partie italienne du Bronx, dans cette rue qui s'appelle Authors Avenue. Et c'est toujours un vrai plaisir de faire ça.
La géographie détermine ton destin, écrivez-vous au sujet de Elmer, l'un de vos personnages dans La tempête qui vient, James Ellroy. Elmer qui lui a grandi, écrivez-vous, dans la haine constante du nègre qui lui reste en travers de la gorge. Et vous, James Ellroy, dans quelle géographie avez-vous grandi? Et en quoi a-t-elle déterminé votre destin?
Ma géographie après la mort de ma mère en 58 était la partie sud, la limite de Hollywood, où il y avait le district de Wilshire.
Adjoining it,
et à côté,
was Hancock Park.
Il y avait ce quartier qui s'appelle Hancock Park.
A very ritzy neighborhood.
Vraiment un quartier très très riche.
Big Rupin, Tudor houses.
Avec des grandes maisons d'époque style Tudor anglais.
Big Spanish houses.
Des grandes maisons à l'espagnol.
Nice looking girls that went to private schools.
Des jolies filles qui allaient dans les écoles privées.
And they wore pastel-colored yellow and pink uniforms,
vêtus d'uniformes pastels et jaunes,
with long skirts,
avec des jupes longues,
and saddle shoes, black and white saddle shoes,
et avec des petites bottines noires et blanches.
And my dad and I were poor.
Mon père et moi, nous étions pauvres.
Our dog was not housebroken.
Notre chien n'était pas véritablement habitué à vivre à l'intérieur.
Et our place stunk.
Notre lieu, notre appartement, ça
puait.
Et donc, j'étais toujours en train de cavaler
Hancock Park,
autour de Hancock Park, dans ce quartier-là.
Feeling very hungry.
Et j'avais très très faim.
Looking in windows.
Je regardais à travers les fenêtres.
Looking for the girls in the pink dresses.
Je cherchais les filles avec leurs uniformes roses et leurs petites bottines.
Families.
Des familles,
mothers and fathers,
des pères,
sisters,
des mères,
brothers,
des sœurs, des frères,
nice-looking cars,
des belles bagnoles,
yards,
des jolis petits jardinets.
And I further plumbed
et
my private peace with the world.
C'est là que j'ai établi véritablement ma relation au monde.
And as I wrote
et
in my book My Dark Places,
quand j'ai écrit Ma part d'ombre,
I didn't covet Hancock Park.
Je ne pensais pas à Hancock Park.
From any kind of aggrieved perspective.
Je n'y pensais pas d'un point de vue, disons, de deuil ou de manque.
Just being close to it was enough.
Mais être près de ce lieu-là, ça me suffisait.
Hence the southern edge of Hollywood.
Et donc la partie sud de Hollywood
and Hancock Park,
et Hancock Park.
They keep showing up and up and
eh bien,
up in my books.
Ils apparaissent sans fin dans mes livres.
Les livres qui étaient dans cette géographie particulière aussi votre refuge, vous l'avez dit et raconté. Les cinémas aussi, où vous alliez énormément à cette période-là. Vous évoquez Ma part d'ombre. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tous vos romans aussi, c'est la part d'ombre de l'histoire collective américaine, de la mémoire des États-Unis que vous tentez de faire remonter. J'aime bien cette formule, vous dites que vous espionnez l'histoire. Comment faites-vous ça? À l'aide d'archives? À l'aide d'espions?
In the wake of my mother's death, I had a revelation.
À l'époque ou à l'après la mort de ma mère, j'ai eu une révélation.
It was a gradually
C'était
occurring revelation.
Une révélation qui est apparue graduellement.
It was that the official
C'était que
version of events
la version officielle des événements n'était pas la vérité.
And that crime
et que le crime
and sexuality
et la sexualité
pervaded the adult world
était parvenu à pervertir le monde adulte. Et je croyais que moi, j'avais une vision particulière de cela. J'avais aucune preuve, mais je pouvais le sentir.
Donc,
pour pouvoir assouvir ma curiosité, j'ai commencé à lire des romans policiers. Je me suis rendu compte plus tard que moi, je m'engageais dans un dialogue subliminal avec feu ma maman
et
je mettais en place les motifs qui ont eu pour résultat sa mort.
All of this exploded.
Tout cela a explosé
en
1959, lorsque mon papa m'a acheté un livre pour mon anniversaire.
Ça
s'appelait The Badge de Jack
Webb.
Et il y avait dans ce livre un résumé en 10 pages du cas du Dahlia Noir, du meurtre du Dahlia Noir. Irrésolu, tout comme le cas du meurtre de ma mère.
The two women,
les deux femmes,
Jean Hilliker,
ma mère,
Elizabeth Short,
le Dahlia Noir, ont fusionné comme un seul être dans mon esprit.
Il y aurait donc une dimension secrète aussi dans l'histoire des États-Unis, comme peut-être dans toute histoire de toute nation, de tout pays. Tout n'aurait pas été dit. Il y aurait encore des vérités à découvrir, des mythes mensongers ou pervertis à déboulonner, des zones d'ombre de l'histoire à éclairer. C'est ce que vous faites dans ce roman, notamment avec les camps d'internement de Japonais comme celui de Manzanar dans les montagnes de la Sierra Nevada. Cette histoire, elle est connue par certains, mais pas connue ou peu connue du grand public. C'est une histoire souterraine qu'il est important de faire remonter à la surface. Et c'est aussi ça, le rôle du romancier tel que vous le percevez.
Je ne cherche absolument pas à faire véritablement un exposé politique qui pourrait vraiment refléter quelque chose qui se produirait aujourd'hui. La grande injustice de l'internement des Japonais est une partie essentielle des années 41-42 aux États-Unis. Je comprends l'origine empathique, si vous voulez, des internements, le règne terrible de la terreur que les forces du Japon impérial ont jeté sur le monde à la fin des années 30, et plus spécifiquement le viol de la ville de Nankin, la ville chinoise de Nankin, avec des atrocités, des horreurs, qui ne justifient pas ces origines de cet internement. Mais ce qui a été fait, parce que, comme la Seconde Guerre mondiale s'approchait et qu'il devenait clair qu'on allait entrer en guerre, le président Roosevelt a envoyé un émissaire du nom de Manson,
out to the west coast,
vers la côte ouest,
to perform a study on the loyalty,
la loyauté
Japanese Americans,
des Américains d'origine japonaise.
And Munson,
et Munson a conclu
that they were what he
qu'ils étaient ce qu'il a appelé
pathetically loyal Americans,
d'une loyauté pathétique envers les États-Unis. Sachant donc que c'était pas bien, que c'était mauvais, mais qu'ils l'ont fait quand même. Et ça, c'est particulièrement horrible, donc, qu'ils aient procédé à ces internements.
Little Bighorn n'a pas constitué une représentation fidèle des rencontres qui se produisaient entre Blancs et Indiens, Monsieur Crabbe. Alors, c'est-à-dire l'espèce de génocide dont les Indiens ont été les victimes.
L'espèce de quoi ?
De génocide. Cela veut dire l'extermination. L'assassinat collectif de toute une population. Car en fait, c'est ce que nous avons fait aux Indiens. Mais bien entendu, il serait très surprenant que le vieux combattant d'Indien que vous étiez ait les mêmes points de vue que moi.
Extrait du film Little Big Man, sorti en 1970 avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway. On connaît l'histoire de ce survivant d'un massacre, celui de Little Big Horn, qui raconte son histoire. Le jour où sa tribu a été décimée, massacrée par les Blancs, il est d'origine indienne. Vous avez dit, vous, James Ellroy, que l'Amérique n'a jamais été innocente. Qu'entendez-vous par là, par cette idée que la véritable Amérique s'est fondée sur le crime ?
Big great nation, the 13 colonies.
Nation, les 13 colonies.
The single greatest antecedent.
Le seul précédent d'importance à la démocratie américaine,
is the Protestant Reformation.
C'est la réforme protestante.
It's the European break, the schism.
Le schisme en Europe. Luther et l'Église catholique. La guerre de 30 ans. Combien de gens, des milliers, ont été tués? Les 13 colonies sont une base, une image traçable du schisme avec Rome. La démocratie représentative américaine vient de la réforme.
Et il
y a eu un prix horrible de sang à payer. Moi, je le reconnais en tant que protestant. La plupart des catholiques le reconnaissent. Qui est innocent? Qui est coupable ici?
Est-ce Pope Léo?
Est-ce que c'est le pape Léon? Est-ce que c'est Martin Luther? Est-ce que c'est Jean Calvin?
Je ne sais pas.
Nous portons les gènes de cet immense événement. Et ça détermine la fondation de l'Amérique.
Est-ce qu'il faut chercher les coupables ou simplement reconnaître cette culpabilité collective pour qu'elle cesse de travailler dans un mauvais sens, la société?
I don't buy universal guilt.
Moi, je ne crois pas à la...
I didn't rebel against the forces of Rome.
Je ne suis pas contre les forces du mal. Je ne me bats pas contre les forces du mal.
I wasn't a henchman of the Pope when he killed the Huguenots.
Moi, je ne suis pas pour tuer le pape quand il a tué les Huguenots, ici en France.
My job in all of this,
mon travail dans cet aspect politique de la littérature, c'est simplement d'informer les gens
as best I can,
du mieux que je peux.
What a ride, rollicking, quite often dark ride.
Ben, vous savez, l'histoire était sombre à l'époque et je pense qu'elle le sera toujours.
Dans ce nouvel opus, James Ellroy, La tempête qui vient, la guerre est perçue par beaucoup de vos personnages comme une occasion d'en profiter, occasion aussi de s'enrichir. Impossible d'écrire, et c'est aussi votre ambition, peut-être à travers ce nouveau quatuor, une histoire populaire de l'Amérique, sans en revenir à un des mythes fondateurs, le mythe de la ruée vers l'or. Est-ce que l'or reste une obsession maladive des Américains?
I don't know. I know there were an awful lot of people.
Je sais qu'il y a eu énormément de gens comme mes parents
who landed in LA
qui ont atterri à Los Angeles dans les années 30
looking for the big main chance.
En cherchant la grande occasion, la grande chance de leur vie.
Ever self-referential, I will give you an example.
Et donc je vais vous donner un exemple.
From perfidia.
De perfidia.
Dudley Smith, the demonic Irish policeman, fascist, war profiteer,
véritablement, slave trader, and ce marchand d'esclaves, ce méchant flic, ce mauvais flic,
has an affair with screen legend Betty Davis.
Une relation amoureuse ou sexuelle avec Betty Davis, l'actrice.
Dudley Smith, a child killer.
Dudley Smith, le tueur d'enfants.
For Irish Republican causes.
Pour une cause irlandaise, il avait été traumatisé et battu par sa mère alcoolique. Il a vu des soldats tuer son père sous ses propres yeux et tuer son frère. Et le voici, il est à l'extérieur de l'auditorium Shrine, 10 jours après l'attaque sur Pearl Harbor, et voilà, il est embrassé par Betty Davis. Et à la suite, ils ont une relation amoureuse. La grande chance à Los Angeles, c'est ce type de rencontre et de besoin émotionnel. Parce que je peux me dire, wow, je suis pas une merde parce que je viens d'embrasser Bette Davis. Ce type de savoir, de connaissance et de préscience qui fait sonner une cloche d'alarme, une sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme dit, Dudley, l'Amérique vient d'entrer en guerre et les barrières sociales viennent de s'effondrer. Et te voici, un clébard corrompu, et cet égalitarisme n'aurait pu se produire que à Los Angeles, à cette époque-là. Vous savez, le temps et la géographie, c'est ça là, le destin. Et Los Angeles, vraiment, était joli, était bien, était beau, et on leur a rendu grâce.
Et l'or devient un motif que vous travaillez dans ce roman La Tempête qui vient de James Ellroy, de ces possibles ouverts, de cette quête ou de cette conquête. L'auteur de Lune sanglante, du Dahlia noir ou encore du récent Perfidia, à qui il vient de donner une suite, La Tempête qui vient, chez Rivage, est notre invité spécial jusqu'à 13h30. Dans la première partie de notre entretien, on a ambiancé, comme on dit, avec Shostakovich et Beethoven, changement d'ambiance et de décor. Bézier et son orchestre, 1938, Count Basie, qui avec son orchestre anime le réveillon de Noël, du Nouvel An, pardon, pour le LAPD dans votre roman James Ellroy. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
1941-1942, Los Angeles, c'est donc le cadre et l'époque de ce nouvel opus, La Tempête qui vient, James Ellroy. On parlait de ce que la guerre révèle des hommes ou de la nature humaine. Avec vous, tout le monde en prend pour son grade, hein, d'une époque à l'autre. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des journalistes ?
What do I think of the reporters ?
Ce que je pense des journalistes. Des correspondants de guerre, vous voulez dire ?
Des journalistes.
Reporters at large. I like them when they like me.
Je les aime quand ils m'aiment. Je les aime pas quand ils m'aiment pas.
I always try to track.
J'essaie toujours de retracer.
I rarely watch the media. I don't watch television.
Je regarde pas vraiment la télé. Hein. Je regarde pas du tout la télé.
What I find with journalists in general.
Ce qu'il y a avec les journalistes en général.
Is that they're very drawn.
C'est qu'ils sont très attirés par les arguments émotionnels.
And I sometimes distrust emotional arguments.
Et moi, je fais pas confiance à l'émotion.
Ils font pourtant partie de cette micro-société que vous racontez des années 40 comme celle d'aujourd'hui. Il y a aussi dans votre roman des prêtres, des hommes d'église. Je vous cite. Les ecclésiastiques allument des cigarettes et boivent un coup. L'archevêque reluque Claire, Monseigneur Joey reluque le serveur, le père Charles gribouille sur sa serviette de table, il dessine des croix gammées d'où tombent des gouttes de sang. Vous croyez en Dieu, votre foi vous l'avez affirmée et réaffirmée. Vous ne croyez pas en revanche, à ceux qui le représentent sur terre, les hommes d'église, les prêtres.
Father Charles Coughlin was a
le père Charles Coughlin était quelqu'un qui haïssait beaucoup
de gens.
Et de tout point de vue, c'était un être humain très mauvais.
The big radio priest of the 1930s.
Le prêtre de la radio des années 30 et 40.
So I felt safe morally.
Donc moi j'étais tranquille en le faisant dessiner des croix gammées sur une petite serviette.
I used to caddy at a working class golf course.
Moi, j'ai été caddie, vous savez, porteur de club dans un club de golf de la classe ouvrière.
In New Rochelle, New York.
Dans la région de New York.
There were a number of Catholic priests.
Il y avait pas mal de prêtres catholiques qui jouaient sur ce parcours de golf.
And they were rollicking, hard drinking.
Et ils buvaient vraiment sec.
Extremely profane.
Ils s'amusaient. Ils étaient très obscènes.
And
et
one of them told me that the Catholic Church
l'Église catholique
had 5 alcohol dry out rehab centers.
Avait 5 centres de réforme des anciens alcooliques dans un seul lieu des États-Unis, tout simplement.
Also,
et donc,
I have to say, as a Lutheran,
et faut que je dise comme en tant que luthérien,
that
que
there were incidents in the 1990s.
Il y a eu des incidents dans les années 90.
Three separate
de
Lutheran ministers,
trois
who
prédicateurs luthériens qui ont été impliqués dans des relations intimes
with unsavory women,
avec des femmes de mauvaise vie et ont dépensé l'argent de l'Église en mettant cet argent, en le dépensant dans des centres d'appel pour services sexuels et qui ont eu recours à des attaques armées pour avoir de l'argent pour pouvoir continuer à appeler ces numéros surtaxés.
Hold the lion's share
et donc,
of the market
véritablement,
on
voit que ces prêtres et ces curés n'ont pas la part du lion, en fait, dans ce que l'on pourrait appeler la juste voie.
Voilà, donc on aurait peut-être quelques raisons avec vous, James Ellroy, de les garder à distance, de se méfier, tout comme des hommes politiques dont on pourrait parler. Mais arrêtons-nous sur la figure du policier. Vous avez dit un jour, c'est là, dans la police fédérale, que se trouve le vrai pouvoir aux États-Unis. Dans l'ombre. Vos flics à vous, dans vos romans, ils sont véreux, ils sont corrompus, mais ils sont aussi parfois attirants, charmants, en tout cas ils agissent dans l'ombre et dans la lumière, avec des fonctions différentes. Aujourd'hui, qu'est devenue la police? On part à Los Angeles, du côté de ce département, voir comment travaille la nouvelle police de Los Angeles.
Avant les menottes.
Code 37, voiture volée.
Avant le début de la chasse à l'homme.
Before the guns are even loaded.
Avant même que les armes ne soient chargées.
This is how it begins.
Voilà comment ça commence. L'un des systèmes technologiques les plus pointus de la police est né ici, avec une pile de papier et un écran d'ordinateur. Ce sont les données qui comptent et comment elles sont traitées par un programme capable de prédire les crimes qui a coûté des millions de dollars. Dans la majorité des postes de police, voilà ce qu'on entend lors des réunions.
Rappel à tous, travaillez sur les profils d'auteurs de violences domestiques.
Mais ici, dans l'un des postes de police les plus actifs du pays, la division Rampart au centre de Los Angeles, voilà ce qu'on peut aussi entendre.
2 à 17, Howard Desinzo, les gars, vous avez regardé Predpol ?
Predpol est un logiciel informatique qui permet de prédire les crimes. Regardez de plus près leur bureau et vous verrez de quoi il s'agit. Ces petites cases montrent exactement où les crimes vont être commis dans le futur, selon l'ordinateur. Des zones qui n'ont pas été délimitées par une personne, mais par un algorithme.
Un logiciel qui prévient les crimes, James Ellroy. Vous auriez même pas pu l'inventer, celui-là. C'est la fin du flic, du bon vieux flic, du roman noir, du polar.
J'espère que non.
Il faut que vraiment j'écrive mes 5 prochains bouquins très rapidement.
Pourquoi ? Avant que ça n'arrive.
Si ça, c'est le nouveau monde à venir, si c'est le meilleur des mondes qui vient, ben moi, j'ai terminé mon boulot, alors.
En attendant, cette technique, vous la mettez de côté, vous la tenez, là encore, assez loin de vous. Vous l'avez évoqué dans la première partie de notre entretien, vous écrivez à la main avec ces fameux stylos que vous cassez ou finissez par jeter. Pas d'ordinateur, pas de smartphone non plus, pour vous, l'enfant de Los Angeles. La Silicon Valley n'a pas réussi à vous en envoyer un. Vous restez loin de ce monde ?
Oui. Et en fait, sur les bases du comportement de mes flics, ce sont des gens qui tentent de résoudre les rébus qu'ils ont en eux-mêmes.
Ils roulent longtemps sur la testostérone.
Ils sont testostéronés et très peu circonspects. Ils tentent de résoudre des crimes horribles, horribles, pour pouvoir motiver leur propre vie. Ils finissent par arriver dans la lumière des autres parce qu'ils sont creux dans leur cœur. Ils cherchent désespérément l'amour.
Et
comme Hideo Ashida, l'homosexuel torturé
qui
va au cœur d'un crime homosexuel dans ce nouveau livre qui vient de paraître, tous ces hommes tentent d'imposer l'ordre sur leur propre vie et tentent de se libérer pour qu'ils puissent finalement aimer.
Voilà, l'humain au cœur de ce nouveau roman, bien plus que l'algorithme, au cœur de votre vie aussi et de votre Amérique, celle des années 40, James Ellroy, La Tempête qui vient, votre nouvel opus de ce nouveau quatuor de Los Angeles vient de paraître chez Rivage. Un grand merci à vous, James Ellroy. Thank you.
Thank you very,
merci.
Very much.
Merci à vous, cher Michel Slotowski, pour votre traduction. Merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. Travail collectif pour vous servir. Maître, merci à Oriane Delacroix, à Mayan Escovic, à Laura Dutèche-Pérez et à Henri Leblanc avec l'aide précieuse, très précieuse de Sophie Marty et de François Bréus à la réalisation aujourd'hui. C'était Éric Lancien avec Jean Frédérix et à la vidéo, parce que oui, nous sommes filmés, Swad Boukorsa.